bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM. Aujourd'hui, nous ne recevons pas d'association dans les studios de RVM, eh oui. Mais, par contre, nous avons quand même un invité. Je dirais même deux invités pour ce jeudi 17 mars. Et par téléphone. Donc je vais les présenter. Donc il y aura l'association Solidarité sans papier de Creil, représentée par Florence Castinco et Annie Lamar. Donc deux co-présidentes, hein, voilà, on a le choix. On choisira la présidente qu'on préfère. Non, je plaisante, bien sûr. On donnera la parole à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et nous avons aussi une autre association, 100 pour un toit oise, représentée par Hélène Corroyer. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Alors là, c'est beau. Magnifique. Alors, je préviens les auditeurs, j'espère que la qualité sonore va être présente hein, ce soir,
ouais,
parce
qu'on
qu'un insert téléphonique, c'est toujours un peu compliqué, mais on va faire pour le mieux, pour que ça soit bien audible et qu'on écoute bien ce que vous avez à nous présenter et à nous dire ce soir. Donc je suis accompagné avec un homme indispensable à cette émission. Non, là je le flatte un peu trop. Donc c'est Gontran, bonsoir Gontran.
Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs, bonsoir mesdames.
Voilà, Gontran qui se fait de plus en plus rare, mais qui vient quand même nous retrouver de temps en temps. Et voilà. J'apprécie sa bonne humeur. Et donc, de notre technicien, Luc, notre marsouin. Voilà, comme ça, toute l'équipe est présentée. Je vais aussi donner des indications pour les auditeurs. Si vous voulez réagir à cette émission, il y a le Facebook de RVM FM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. N'hésitez pas, on transmettra vos interrogations, vos questions aux deux associations. Voilà, mesdames, à vous la parole. Présentez-vous et présentez après vos associations, s'il vous plaît. Qui commence ?
Commençons par Solidarité sans papier.
Allez-y.
Donc, moi, je suis Florence Castinco, je suis retraitée, j'habite à Nogent-sur-Oise hein, et j'étais enseignante auparavant. Et Annie, tu te présentes ?
Oui. Annie Lamar, donc je suis vice-présidente de Solidarité sans papier avec Florence et j'habite à Creil et je suis retraitée et j'étais aussi enseignante à Creil.
Très bien. Donc les retraités sont actifs sur Creil et Nogent alors. Hein.
Voilà. Et Annie, par modestie, a dit vice-présidente, mais c'est co-présidente.
Ah oui, moi j'ai présenté comme co-présidente. Hein,
absolument.
Voilà,
hein. Absolument. Bon, vous
en d'accord. Et donc nous avons Hélène Corroyer.
Alors bonjour, je suis Hélène Corroyer, je suis moi aussi retraitée.
Eh ben.
J'habite à Mouines, mais après je vous expliquerai que la maison que l'on loue est située sur le bassin Créillois. Et j'ai fait toute ma carrière dans le service social au conseil départemental de l'Oise.
Très bien, ben voilà, donc vous avez quand même une présence sur notre secteur qui était importante, voilà. Alors, nous allons parler ce soir de choses un peu sensibles. Hein. On a des migrants, hein, donc une situation qui n'est pas prête de se résorber, on peut dire. Hein.
Comme l'a dit Louis Rego, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde.
Voilà,
ça y est, c'est parti.
On le salue, Louis Rego.
Oui, on salue Louis Rego, qui était une grande voix de la radio.
Oui.
Alors peut-être un mot sur l'association.
Oui, présenter, voilà, ouais, exactement.
Voilà. Alors l'association Solidarité sans papier, elle officiellement, elle s'appelle Solidarité sans papier, collectif de soutien aux migrants du bassin créillois. Elle existe depuis 2011 au journal officiel, mais en fait elle est, comme souvent, le résultat de toute une histoire de collectifs qui étaient plutôt des collectifs sur l'antiracisme au départ. On s'est même appelé un moment SOS Racisme. Et puis, à une époque, nos activités se sont orientées vers les difficultés des migrants à obtenir le droit au séjour. Et finalement, on s'est appelé Solidarité sans papier parce qu'il nous a semblé que c'était vraiment un combat central, essentiel, en particulier évidemment dans l'endroit où on vit à Creil. Donc notre cœur d'action, si on peut dire, à Solidarité sans papier, c'est d'aider les migrants du bassin créois à faire les démarches pour le droit au séjour. On reviendra tout à l'heure sur les difficultés que ça représente actuellement.
Oui.
À comprendre quelquefois aussi où en est leur situation, qui est quelquefois plus favorable qu'ils ne le pensent, mais parfois non. Donc, c'est vraiment notre cœur d'action. Et puis, comment s'appelle Solidarité ? Je prononce toujours le mot avec un peu de timidité parce que je me dis être vraiment solidaire, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Mais bon, on essaie quand même de l'être un petit peu. Solidarité, ça veut dire que rencontrer des migrants et les aider dans leur dossier, inévitablement, c'est faire connaissance avec des gens qui ont des soucis de logement, de nourriture, d'éducation des enfants, dans plein de domaines. Et donc, la solidarité se prolonge évidemment au-delà simplement de l'accueil pour des dossiers.
Oui.
On pourrait dire qu'on a un cœur de métier qui est l'aide aux dossiers de régularisation. Et puis après, en étoile, l'action se diffuse vers d'autres types d'aide aux migrants.
Voilà. Et votre action est vraiment basée sur Creil, c'est ça ? Est-ce que Solidarité sans papier existe autre part dans la France ou c'est vraiment spécifique à Creil ?
On aimerait vous dire, oh non, il n'y en a qu'à Creil, donc on va résoudre rapidement la situation. Alors oui, bien sûr, c'est une situation très répandue en France, mais alors si l'association a ses activités principalement à Creil, on développe aussi des actions communes avec des associations, on peut dire cousines ou sœurs, notamment à Beauvais, où il y a l'association Solidarité Migrants, à Compiègne, où il y a l'association Actus, et avec d'autres aussi. On trouve très important d'avoir une action conjointe qui dépasse notre agglomération pour peser peut-être plus lourdement lors de certaines de nos actions.
Oui. Voilà. On présente 100 pour un toit ?
Tout à fait. Donc, 100 pour un toit est né au mois d'octobre 2019. Alors, l'idée de 100 pour un toit, c'est un collectif qui existe dans d'autres départements. Ça s'appelle 100 CENT parce que l'idée, c'est qu'il faut au moins 100 personnes qui se réunissent, qui cotisent 5 euros minimum par mois pendant 24 mois pour permettre de louer un logement pour mettre à l'abri. Alors nous, on a choisi d'héberger des mineurs et des jeunes majeurs qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Il y a dans d'autres départements, ils hébergent des familles. D'ailleurs, dans l'Oise, il y a deux autres 100 pour un toit. Il y a un 100 pour un toit famille qui héberge une famille sur le bassin créois et 100 pour un toit Beauvais qui héberge une famille sur Beauvais.
D'accord.
Nous, on a choisi d'héberger des jeunes mineurs, migrants. Alors, il y a tout un dispositif d'évaluation. Quand un jeune mineur non accompagné arrive sur le territoire national, il doit être évalué par l'aide sociale à l'enfance. Et s'il est reconnu mineur, il est pris en charge par ce service.
Oui, ben justement, sur votre Facebook, j'ai été voir, il y a justement l'histoire de Nina.
Voilà.
Donc, qui vous dites qu'elle a 15 ans, c'est ça ?
Voilà.
Et l'aide sociale à l'enfance dit que non, elle n'a pas, pas 15 ans.
C'est ça qui nous a amené à créer cette association, c'est que quand ils ne sont pas reconnus mineurs, ils se retrouvent à la rue parce qu'il n'y a aucune structure qui peut héberger parce que sur leurs papiers, ils sont mineurs. Un mineur, même s'il n'est pas reconnu mineur par l'aide sociale à l'enfance, s'il s'oriente vers une structure comme le 115, on va lui dire qu'il est mineur.
Oui.
Sous quels critères ils ne sont pas reconnus mineurs ?
Alors, il y a toute une procédure d'évaluation qui est une procédure nationale. Il y a un entretien d'évaluation qui est fait par au conseil départemental de l'Oise, c'est fait par des agents du conseil départemental. Après, il y a la vérification quand ils en ont de leur papier d'identité par la police des airs et des frontières. Et s'il n'y a pas ces deux éléments, on va dire en troisième lieu, il y a une radio osseuse.
D'accord.
Radio qui est très controversée. Hein.
Bah oui, ça fait penser à d'autres temps où on a fait des choses comme ça, d'ailleurs, un peu.
Oui, parce que on pourrait préciser quand même que cette personne dormait dehors, quoi. Donc,
Bien sûr.
Oui, donc,
les mineurs, quand ils ne sont pas reconnus mineurs, le jour où on leur signifie qu'ils ne sont pas reconnus mineurs, ils sont dans la rue, hein, c'est terminé. Voilà. Et nous, donc, on les accueille, on fait avec eux parce qu'ils ont la possibilité de faire un recours, faut-il encore être accompagné, c'est pas simple. Hein. Donc, on les accueille, on fait un recours auprès du juge pour enfants et auprès du conseil départemental. Quelquefois, il suffit juste de récupérer leur papier d'identité qu'ils ont perdu pendant la traversée, hein, parce que, bon, c'est pas comme nous, ils viennent pas, ils partent pas en vacances avec leur passeport. Hein, donc, pendant la traversée, souvent, ils perdent leur papier. Et quand ils arrivent ici, ils n'ont pas les papiers, évidemment. Donc, il faudrait leur laisser le temps de récupérer les documents, ce qu'on fait, nous, quand on les accueille à l'association.
Oui. Et là, vous dites aussi qu'il y a un autre jeune qui est très vulnérable, qui a atteint une intervention chirurgicale, donc, mais il est dehors. Donc, voilà, il ne peut pas être pris en charge.
Il y a des jeunes
quoi.
Qui ont des problèmes de santé qui sont dehors. Parce que nous, dans notre structure, on est une toute petite structure, on peut accueillir 4 garçons.
Bon. Oui.
Il y a bien plus de demandes, malheureusement, que possibilité de les accueillir. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont dehors, bien sûr, dans l'Oise et ailleurs, dans tout le département. Et voilà. On accueille aussi des jeunes majeurs qui sortent de l'aide sociale à l'enfance à 18 ans sans solution d'hébergement. Parce que ça aussi, ça arrive. Le jour de leur anniversaire, on peut mettre fin à leur prise en charge et ils se retrouvent sans solution d'hébergement.
Ouais, donc vous demandez vraiment qu'on respecte la trêve hivernale qui est normalement prévue jusqu'au 31 mars, hein, c'est ça hein.
Alors ça, déjà, on ne respecte pas du tout la trêve hivernale pour eux, mais tout le long de l'année,
oui.
On voit bien qu'on respecte le droit des enfants, d'autant plus pendant l'hiver, bien sûr.
Et donc vous avez fait une sorte de des associations signataires, c'est ça, d'une pétition un peu, c'est ça?
Par rapport à
cette trêve hivernale, vous demandez qu'elle soit respectée, voilà.
Oui. On a un collectif d'associations qu'on a créé dans l'Oise, hein, avec les associations dont Florence a parlé, mais il y a aussi Emmaüs qui en fait partie, je ne voudrais oublier personne, le FSU, on est tout un collectif hein, d'associations, le Secours catholique, et on milite régulièrement en faveur des mineurs non accompagnés.
Oui, j'ai vu aussi à Attaquoise.
Dernièrement, on a fait une démarche. Pendant la trêve hivernale pour dénoncer ce qui se passait.
Voilà. J'ai noté aussi qu'il y avait donc Attaquoise, il y avait le Secours catholique, oui. Il y avait la Ligue des droits de l'homme.
Voilà,
vous êtes beaucoup d'associations qui, justement, dénoncent un peu cette situation. Voilà.
Oui, et il y a, par exemple, tout à l'heure, je citais d'autres associations. Une autre aussi qui s'appelle 100 pour un toit famille, cette fois.
Oui.
Qui est une association qui essaie de venir en aide à des familles aussi, la plupart du temps sans papier, qui sont à la rue. Et d'essayer de leur trouver des solutions de logement, de prise en charge, en attendant que les démarches de régularisation aboutissent. Ça a commencé en particulier autour d'écoles, où des maîtres qui font partie aussi d'une autre association sur le bassin créois, qui s'appelle la Veillée des écoles, donc c'est tout un maillage d'associations à la fois humanitaires et solidaires. Des enseignants qui se sont dit, mais... Voilà, j'ai dans ma classe cet enfant et je m'aperçois qu'il dort dehors avec sa famille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça aussi, ça se passe dans beaucoup d'autres endroits en France. Mais cette association, donc, s'appelle 100 pour un toit famille, essaie de trouver des solutions, encore une fois, d'hébergement, cette fois de famille, et pas seulement de mineurs comme l'association 100 pour un toit, pour essayer au moins de trouver une solution pour certains enfants et leurs familles, encore une fois, le temps que les démarches aboutissent.
Donc c'est incroyable, vous nous dites qu'il y a des familles qui dorment dehors. Quoi. Donc
alors,
ça fait peur d'entendre ça quand même. Tu dis, mais c'est pas possible quoi, à notre époque.
Alors, il y a tout un système. En ce moment, il y a une situation, une crise d'ailleurs, on va dire. Hein, puisque les familles, les personnes, quand elles arrivent, elles font une demande d'asile, elles sont hébergées dans un CADA. Quand elles ont la réponse à leur demande d'asile, si c'est refusé, la prise en charge du CADA est terminée et ces familles-là, le jour même, se retrouvent à la rue. Bon, alors avant, il y avait tout un dispositif. Donc après, ils ont la possibilité d'interpeller le 115 pour être hébergé la nuit, hein, ce qui se fait. Sachant qu'avant, il y avait un dispositif qui prenait la suite, les familles pouvaient à un moment être hébergées à l'hôtel. Bon, ça n'existe plus maintenant. Donc là, il n'y a plus aucune solution pour ces familles. Et donc, on a beaucoup, nous, sur le bassin créois, en ce moment. On a un certain nombre de familles avec des enfants, même des enfants en très bas âge. Hein. La semaine dernière, là, il y avait une dame, son bébé, il a un mois. Voilà.
Donc, alors oui, on peut dire que le 115, évidemment, essaie de mettre à l'abri en priorité les femmes avec les enfants. Souvent, les pères, eux, choisissent de rester à la rue pour que la mère soit prioritaire avec l'enfant pour être hébergée. Mais le 115, ça, on le sait maintenant, au niveau national, connaît une crise d'engorgement, d'excès de demande par rapport aux possibilités que l'État met en œuvre pour héberger ces familles. Et donc, oui, chaque soir, il y a des familles qui se retrouvent à la rue.
On peut traduire CADA, s'il vous plaît? C'est un centre d'accueil, c'est ça?
Centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Très bien, merci. Et donc, moi, j'ai assisté à une des maraudes sur Creil, où vos associations étaient présentes. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de mamans avec leurs enfants. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup de femmes. Et donc là, ces maraudes-là, c'est important. Vous vous associez à d'autres associations pour faire ça. Et ça vous permet aussi de pouvoir les aider sur leur situation, c'est ça, de les rencontrer et de faire connaissance avec eux.
Oui, alors c'est un lieu, en même temps, on se sent assez démuni. Et quand on repart de la maraude vers 21h30 ou 22h, on n'est pas très, j'allais dire, pas très fier, parce qu'on retourne dans nos logements bien chauds et on sait qu'il y a des gens qui vont rester à la rue. Mais on a une présence qui, à la fois, complète celle du SAMU social, parce que le SAMU social distribue de la nourriture et des boissons chaudes.
Oui.
On a une présence d'associations amies, là aussi, qui viennent régulièrement faire des distributions de produits d'hygiène, de vêtements, en fonction de besoins identifiés. Donc, il y a comme une rencontre hebdomadaire, hein, il n'y a pas tous les soirs, avec des familles. Et puis, comme vous le disiez, ça sert aussi à rencontrer des familles et leur demander « avez-vous besoin de nous rencontrer pour vos papiers, pour l'aide au dossier de séjour? Est-ce qu'on peut vous aider à débroussailler la situation ?» Et donc, on prend rendez-vous avec des familles ou des personnes isolées pour essayer de les aider dans leur démarche. Donc, cette présence à la maraude, c'est effectivement à la fois ce double rôle d'aide humanitaire, on va dire, et puis d'aide aux démarches administratives. Mais c'est une situation très difficile, difficile pour nous, mais je vais dire bien plus difficile encore, bien sûr, pour les personnes en question. C'est quelque chose, comme vous le disiez peut-être tout à l'heure, qui est assez ignoré de la population, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que tous les soirs à Creil, il y a des familles avec des enfants. Les enfants jouent comme s'ils étaient dans une cour de récréation. Il est 21h30 et ils attendent de savoir où ils vont être emmenés. Il faut préciser aussi qu'au niveau de l'Oise, le 115 dispose d'assez peu de places d'hébergement, finalement, puisqu'il y a quelques places à Nogent sur toute l'agglomération, 6 places à Nogent en tout, dans un petit centre pour toute l'agglomération de Creil, et un peu plus de places à Compiègne et à Beauvais, ce qui fait que les familles, quand elles sont prises en charge, sont emmenées soit à Beauvais, soit à Compiègne. Ensuite, la famille doit sortir à 7h le matin, par tout temps et toute saison, et charge pour la famille de revenir ensuite à Creil, de Beauvais ou de Compiègne, donc en payant le train. Et puis, lorsque les enfants sont scolarisés, d'essayer de scolariser quand même régulièrement les enfants. Donc, ce sont des galères, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, de grandes, grandes galères pour ces gens, et qui, comme disait Hélène, avaient espoir de se terminer il y a quelque temps par une mise à l'abri un peu plus pérenne dans ce qu'on appelle des hôtels, c'est-à-dire des chambres où ils pouvaient rester un certain temps. Possibilité qui maintenant va se clore, est en train de se clore petit à petit. Et donc, ce sont des familles qui ne peuvent espérer qu'une mise à l'abri temporaire chaque soir. Pardon, j'ai été un peu longue.
C'est très important, les explications que vous nous donnez. Donc, ça veut dire qu'à 7h du matin, les familles se retrouvent dehors. Donc, j'avais eu des témoignages. Il y en a qui partent en stop, il y en a qui se débrouillent. Parce que quand on est sans papier, ce n'est pas évident d'avoir des moyens de transport. C'est une situation très complexe. Et beaucoup d'enfants qui étaient scolarisés sur Creil, c'était la course pour arriver à temps à l'école, quoi. Oui, donc c'est incroyable. Et donc, c'est des familles qui viennent beaucoup d'Afrique, c'est ça, hein? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont d'origine africaine, hein? C'est ça, hein?
Alors, certes, mais il y a aussi on a eu beaucoup de familles qui venaient de Géorgie.
Ah oui, d'accord.
Mais on peut avoir aussi des familles qui viennent d'Algérie, c'est déjà arrivé, de tout pays. Alors c'est vrai que la plus grande, c'est plus l'Afrique, mais on a de tout pays.
Oui, il y avait Haïti aussi, je crois, j'avais rencontré des gens d'Haïti,
Dernièrement, il y avait une famille roumaine, donc bon, ça c'est...
Oui. Et là, avec ce qui se passe un peu en Ukraine, donc là, ça sera des réfugiés, donc migrants réfugiés, c'est pas tout à fait la même chose, oui. Comment expliquer aux gens la différence entre un réfugié et un migrant?
Alors, nous, déjà, moi, je ne l'explique pas.
Oui, d'accord. c'est clair.
Parce que réfugié, c'est un statut.
Oui.
Ça veut dire quand vous avez fait une demande d'asile, après, on vous accorde le statut de réfugié.
D'accord.
On quitte son pays pour diverses raisons, qui sont souvent... les gens en général, s'ils avaient le choix, ils resteraient dans leur pays, il faut savoir, quel que soit le pays où on vient en général, qu'on discute avec eux. Ils ont tous une raison valable de quitter leur pays, que ce soit la guerre. Il y a d'autres pays où on fuit la guerre que l'Ukraine.
Il y en a d'autres en guerre, oui, bien sûr. Oui.
Voilà. Bon. qu'on accueille, qu'on soit solidaire envers les Ukrainiens, nous, on est tout à fait, voilà, évidemment, c'est très légitime qu'on soit solidaire envers les Ukrainiens. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on soit solidaire envers toutes les personnes qui sont obligées de quitter leur pays. Mmh. Voilà, on va dire par
vous,
exemple...
Vous avez l'impression qu'il y a comme ça des migrants, on va les appeler comme ça, qui soient plus reconnus par la population que d'autres, nettement, vous avez cette impression ou...
Alors, par la population, je ne sais pas. Je veux dire, actuellement, il y a un dispositif en faveur des Ukrainiens qui est légitime.
Oui, qu'on comprend.
Quand vous allez à Calais, par exemple, il y a beaucoup d'Afghans et de Syriens qui ont fui la guerre. Bon. Les conditions, on ne va même pas dire d'accueil, hein, les conditions dans lesquelles survivent ces personnes à Calais sont absolument abominables. Hein. Il faut savoir que tous les jours, la police leur arrache leurs tentes, tous les jours, on les chasse. Et c'est des personnes qui ont fui la guerre. Bon, là, les Ukrainiens qui arrivent, ils sont accueillis et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais nous, on demande ce même accueil pour tout le monde.
D'accord,
voilà. Oui. Que les situations soient équitables, c'est ça,
oui. Voilà, voilà. Oui, on a entendu au moment de l'accueil des Ukrainiens des discours qui étaient assez saisissants sur le fait qu'on pourrait mieux accueillir des gens plus proches de nous que des gens qui semblent moins proches de nous.
Et mais c'est un peu dans ce sens-là que j'allais, oui.
Oui,
parce que
oui,
je l'ai entendu ça, aussi.
Oui, ça signale quand même, je ne sais pas comment dire, si on peut, oui, on peut appeler ça un racisme latent dans la société, oui. Qui est malheureusement, qui n'est pas nouveau, mais qui est qu'on considère que certains étrangers sont plus assimilables que d'autres, sont plus proches de nous que d'autres, et donc ils auraient plus droit que d'autres à être accueillis. Et encore une fois, voilà, l'arrivée actuelle des Ukrainiens est absolument légitime et il ne faudrait pas qu'il y ait une concurrence voilà. D'accueil.
Non, qu'on parte dans l'autre sens, non.
Ah, oui, voilà. Bien sûr, oui.
Mais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que d'autres types d'exil, comme disait Hélène, d'autres types d'arrivées sur notre territoire sont vécues comme des choses différentes. On entend ce discours qui est que certains sont des migrants économiques et alors ils seraient moins légitimes à être accueillis sur le territoire, comme si fuir la faim, le manque de soins, le manque d'éducation, le manque d'espoir pour ses enfants, c'était moins légitime que fuir la guerre. Alors certes, il n'y a peut-être pas la même urgence, mais encore une fois, nul ne quitte son pays le cœur léger et nul ne vient s'établir dans un pays... où il est difficile de vivre et d'être accueilli le cœur léger. Donc, cet accueil-là, c'est quelque chose à réfléchir.
Voilà, ça me fait penser à un sketch de Coluche quand il disait « Si tu es petit, noir et pauvre, pour toi, la vie sera beaucoup plus difficile. » Et il avait déjà une vision des choses qui était quand même...
Hein.
Alors, je vais passer la parole à Gontran, parce que Gontran, il a travaillé cette émission et il va nous proposer une petite chronique.
Bah écoutez, alors ce sera pas une chronique vraiment à proprement dit, mais j'avais envie de ressortir un vieux truc qui nous vient de la radio, hein, qui est passé en 1951, plus exactement à la radio. Donc c'est un extrait, ça avait été écrit par Léo Ferré et ça avait été dit par Jean Gabin. 1951, c'est pas d'aujourd'hui, et donc c'était un récit radiophonique pour récitants, voilà. Et donc, Jean Gabin, n'ayant pas pu se délivrer pour venir à RVM ce soir, je vais prendre sa place. Voilà, c'est un petit extrait qui s'appelle « Pour soulever le toit ». Pour soulever le toit qui me pesait, je n'étais pas le seul à attendre l'orage. Enfin, ma vie reprit hors de ces prisons de malheur. Je passais comme l'or au crible des combines. Cette fois-ci, je buvais la lie avec la coupe. J'étais couché sur tous leurs registres, comme un compte en main courante. « Papier, s'il vous plaît. Vous avez votre permis de travail? N'oubliez pas le certificat de domicile. Préparez vos passeports, messieurs, dames. Voulez-vous remplir votre fiche, monsieur? Oh, foutez-moi la paix, état civil du monde !» Et je devins Judas d'Europe ou bien d'ailleurs. Je sus qu'entre un vrai passeport et un faux, il n'y avait pas de différence de nature. L'important étant de passer. Mais une différence d'intention, et que ceci n'avait aucune importance. Après tout, ne suffisait-il pas de savoir nager pour traverser toutes ces rivières qui se foutent éperdument des barricades préfabriquées? Toutefois, vraie ou fausse, il me fallait une carte d'identité. J'en eus ma vie durant une bonne centaine. Mais ce qui me paraît détestable dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Chemin de croix faisant sur les routes du monde, je connus une race d'hommes étranges. Ils portaient la houppelande de leur solitude comme une décoration trop évidente. C'était un uniforme qui collait à leur peau tel un tatouage indélébile. Les émigrants. Je m'en souviens. Ils étaient 100 ce matin-là sur les frontières de Pologne. Les émigrants d'Arizona, avec leur cœur au bout des pognes. Et on les comptait lentement, comme on compte la galette, en paquet de 10, 700, en appuyant sur la gâchette.
Bravo.
Ah, j'ai merdé 2-3 fois, hein. Je suis pas Jean Gabin, je l'ai dit, mais bon.
L'émotion, c'est normal, voilà. Donc,
donc c'est un vieux texte, voilà, mais je trouvais qu'il était assez d'actualité.
Oui, c'est ça. Vous pouvez nous dire
Alors, oui, ça vient d'un enregistrement qui s'appelle « De sac et de cordes », Jean Gabin, Léo Ferré, 1951, qu'on peut trouver en CD à la FNAC ou ailleurs. Et donc, c'est passé d'abord au cabaret Le Bœuf sur le Toit, puis ça a été enregistré en 51 à la radiodiffusion, si je retrouve, française, oui. Radiodiffusion française, voilà. Pardon ?
Non, j'ai le passage sur les papiers, je crois que ça nous rappelle vraiment le fait qu'on on dit les personnes sans papiers, mais souvent on dit mais les personnes sans papiers sont au contraire des gens qui ont des tas de papiers, mais des tas.
Oui,
des
c'est
tas.
Ça. Hein.
Ils ont des classeurs plein de papiers.
Plus que nous.
Plus que nous, oui, parce qu'ils ont sans cesse besoin de montrer le bon papier. Et chacun sait qu'on est un pays en plus très tracassé du point de vue des papiers. Et ce sont des gens, effectivement, qui ont à chaque fois à montrer le papier, à même reproduire 36 fois un papier qu'ils ont déjà envoyé pourtant. Et donc, les sans-papiers sont déjà, au contraire, qui sont très, très traumatisés par la question des papiers.
Des papiers, oui. Et vous pensez que c'est voulu, ça, le fait de leur redemander 15 000 fois le même papier? C'est quelque chose, c'est comme une machine bien en place, ou c'est la difficulté de la magistrature qui fait ça?
Alors, je pense que c'est les deux combinés.
D'accord.
On va dire qu'on a des procédures administratives qui sont quand même très lourdes et très complexes, pour toute démarche d'ailleurs. Et après, je pense qu'effectivement, rien n'est facilité pour l'accès au droit des personnes étrangères. On peut nous demander effectivement d'envoyer plusieurs fois le même extrait d'acte de naissance. Pour vérifier que c'est un bon extrait d'acte de naissance.
D'accord, c'est donc, ça qui se trouve derrière. On veut vérifier par là que...
Voilà, on vérifie énormément. Voilà. Et bon, en plus, c'est très réducteur de réduire une personne à un papier d'identité. Voilà, quand on dit... on peut bloquer souvent les personnes quand on avait encore accès à la préfecture, parce que ce n'est plus le cas. Les personnes disaient, mais les agents de la préfecture, ils détiennent leur vie dans leurs mains, notre vie dans leurs mains. On voyait derrière le guichet, il y a la pile de récépissés, etc. Et la personne est derrière le guichet, elle attend, est-ce que l'agent va me le faire, est-ce qu'il ne va pas me le faire. Et ils vivent toute leur... Alors, même quand ils ont un titre de séjour, ils vivent toute leur vie avec cette épée de Damoclès. Est-ce qu'on va me renouveler mon titre de séjour? Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler? Et donc, ils vivent tout le temps dans ce stress permanent, tout le temps.
C'est quelque
chose que nous, on n'imagine pas, hein, qu'on ne soit pas, puisque dans la vie, pour nous, c'est beaucoup plus facile. Mais ils sont stressés tout le temps. Moi, les jeunes qu'on accueille, par exemple, en plus du traumatisme de ce qu'ils ont vécu... Hein, c'est pas simple, le parcours migratoire. Ils vivent avec cette angoisse permanente. Tout le temps, ils sont en état de stress. Tout le temps. En plus, ça, plus la vie quotidienne, est-ce qu'on va se faire arrêter? Est-ce qu'on va être contrôlé? Voilà, c'est une vie... Alors, on doit se cacher, quand même, un peu, tant qu'on attend ses papiers. Même quand on les a, c'est compliqué.
Ouais, c'est jamais simple, quoi. Mais moi, pour l'anecdote, ce qui me fait rigoler, c'est que j'ai une carte de chauffeur, vous voyez, parce que je conduis des transports en commun. Et sur la photo de cette carte, j'ai 20 ans. Alors que j'en ai 53 aujourd'hui, j'arrête pas de leur dire, mais changez cette foutue photo, on me reconnaît pas. Et non, à contrario, on le fait pas. Donc c'est vrai que, voilà, les histoires de papier, c'est toujours compliqué. Hein. Et bon, pour moi, ça va, c'est une complication plutôt sympa, on va dire.
Ouais. Mesdames,
ça
je vous...
Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie, allez-y, je interviendrai après, allez-y, je vous écoute.
Pardon, non, parce que je pensais que ça ne va pas s'arranger avec le processus de dématérialisation de nos demandes, alors pour beaucoup de nos démarches, mais en particulier pour les démarches de titre de séjour. Et ça, c'est quelque chose de tragique quand même pour beaucoup, puisque ça va demander l'utilisation, alors c'est pas tellement l'utilisation de l'informatique en soi, mais le besoin de matériel, le fait qu'il faut, on n'a pas d'interlocuteur, en fait, nous, déjà, on proteste, nous, en tant que citoyens français, de ne pas avoir d'interlocuteur dans main de démarche, parce qu'il faut passer par des sites internet, mais pour un étranger, c'est encore bien pire. Donc, ces processus de dématérialisation sont vraiment cruels pour beaucoup de demandeurs de titres de séjour.
Oui. Je vous propose votre choix musical.
Tout à fait.
Hein ? Et puis, on se retrouve dans 3 minutes.
D'accord.
À tout de suite.
À tout de suite.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut 2 noirs pour 1 blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour 2 sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Voilà, Lily de Pierre Perret. Donc un choix de circonstance.
Oui, ça nous est venu quand vous avez demandé une pause musicale. J'ai pensé à cette très belle chanson. Et puis je pensais aussi au poème de Prévert, Kabyle de la Chapelle et des Quais de Gabelle. Très beau poème. Ouais.
Eh bien voilà, donc je précise quand même aux auditeurs que vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui est en insert téléphonique aujourd'hui avec l'association Solidarité Sans Papier et l'association 100 pour un toit. Donc on se posait une question avec Gontran pendant la musique. Gontran, tu veux la poser ta question ?
Alors, c'est étranger, le poème là qu'on cherchait il y a 2 minutes de Prévert. Oui. Voilà, étranger. Ouais. Eh bien, ma question, alors, quelle était-elle ? Quelle était-elle, ma question ?
Est-ce que les migrants rêvaient encore de la France comme un Eldorado ou pas ? Ou ils ont compris qu'ils ne trouveraient pas une situation comme ils pouvaient l'imaginer, quoi ? Parce que quand ils sont sur Calais, c'est pour partir en Angleterre, hein, c'est ça, hein ?
Oui, tout à fait. Mais moi, je vous parle des jeunes qu'on accueille. Je vous parle en particulier de jeunes de Côte d'Ivoire qu'on a reçus dernièrement. En Côte d'Ivoire, la langue obligatoire à l'école, c'est le français.
Très bien, oui. Donc,
on apprend l'histoire de la France. Et eux, évidemment, pour eux, la France, c'est l'Eldorado. On apprend la liberté, l'accueil. Et quand ils arrivent ici, moi, le jeune qu'on a accueilli, il ne pouvait pas imaginer une seule seconde qu'il serait accueilli de cette façon. Mmh. On leur enseigne autre chose. Hein. Ouais. Et même, bon, moi, il y a beaucoup de jeunes souvent qui expliquent aux autres, ne viens pas, c'est compliqué. Mais pour eux, c'est impossible de croire qu'en Europe, on ne puisse pas être bien accueilli. On est un pays, bon, on est riche hein, par rapport à ce qu'ils vivent. Et souvent, ils sont désespérés. Et bon, des fois, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils viennent quand même. Ils ne peuvent pas croire, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, de ce qui va arriver. Pourtant, ils sont au courant, plus ou moins, maintenant. Dans les traversées, il y a quand même des choses dramatiques. Hein. Ils ont tous perdu plus ou moins quelqu'un de leur famille pendant la traversée. Ils connaissent tous quelqu'un qui est décédé pendant une traversée. Hein. Nous, il y a des jeunes qui sont venus avec des membres de leur famille qui sont décédés pendant les traversées.
Ouais.
Mais malgré ça, ça représente toujours l'Eldorado.
C'est toujours mieux que ce qu'ils vivent.
Voilà.
Ouais. Ouais, je crois que c'est important de le redire, ça, parce que...
C'est complexe aussi, parce qu'on peut à la fois... on voit des étrangers qui à la fois admirent le côté services sociaux, par exemple, le fait de pouvoir être soigné, de pouvoir envoyer son enfant à l'école... L'école française accueille tous les enfants pour utiliser les vaccins obligatoires et qu'ils aient une identité, quel que soit leur titre de séjour ou leur absence de titre de séjour. Ça, c'est quelque chose qui est un bien incommensurable, cet accès à l'éducation pendant de longues années sans qu'on vous demande un titre de séjour. Il y a l'accès aux soins, il y a des services publics développés, il y a aussi de la solidarité avec les associations. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est un pays qui offre des choses que les étrangers n'ont pas dans leur pays d'origine, mais ça n'empêche pas par moments de regretter aussi des choses de son pays. Je pense à une jeune maman récemment qui a accouché et qui, tout en bénéficiant des soins de santé, regrettait la solidarité familiale, ce qu'elle aurait trouvé dans son pays d'origine et tout un ensemble de coutumes familiales qui lui manquent. Donc, de toute façon, être un exilé, c'est aussi être toujours entre deux chaises, on sait, entre la nostalgie du pays d'origine, de la langue, de la cuisine. Je me souviens d'un monsieur sans papier qui était à Creil et qui allait à Paris acheter de la nourriture de son pays. Et mon premier mouvement assez bête, c'était de dire, mais enfin, pourquoi aller jusqu'à Paris acheter de la nourriture de son pays et j'ai regretté ce premier mouvement parce que je comprends bien. Enfin, qu'est-ce que ça signifie aussi que de retrouver un peu de son pays d'origine, un peu de sa culture à travers de la nourriture, ce qui est très important pour chacun de nous, on le sait bien. C'est quelquefois, ce sont des sentiments quelquefois ambivalents, ou, alors en fonction aussi de la situation que connaît la personne. C'est-à-dire qu'il y a des galères telles, lorsque un couple est séparé, que la maman est prise au 115, à l'abri du 115 avec le bébé dans des conditions très difficiles, et que le papa, lui, dort dans la rue pendant quelquefois un mois, deux mois, avant et même plus, avant d'être mis à l'abri. Alors là, je pense que par moment, on doute d'être tombé dans un Eldorado.
Justement, quand j'avais assisté à la maraude sur Creil, il y avait des familles qui sont là depuis plusieurs années. Donc leurs enfants sont nés en France. Comment ça se passe pour régulariser ces situations ? Alors pour vous, ça doit être un casse-tête
Alors, donc là, moi, je suis Annie Lamar, je vais vous parler un petit peu, justement, des permanences que l'on organise pour recevoir et essayer d'aider les familles à se faire régulariser. Les permanences, on est 5 femmes, bénévoles, bien sûr, à accueillir ces familles, qui sont envoyées soit par les assistantes sociales, soit par le bouche à oreille, soit par des gens qui sont à la maraude. Donc des situations très diverses. Et la majorité de ces gens sont à la rue. Si vous voulez, après, pour essayer d'aider ces personnes, il faut que nous, on puisse être au courant des nouveaux textes. Et pour ça, on a toute une documentation que nous achetons pour nous tenir au courant parce que les textes changent en permanence et nous avons aussi des formations par un avocat. Nous accueillons ces personnes au centre Georges Brassens à Creil et la personne qui les accueille organise les rendez-vous les mercredis matin et les jeudis matin. Cette personne qui les a au téléphone fait un travail extraordinaire déjà au niveau solidarité. Bon. Nous, lorsqu'on accueille les familles, la première étape, c'est de leur dire déjà que ce qu'ils vont nous dire, c'est absolument confidentiel. Et qu'il ne faut pas non plus dire des choses qui ne sont pas la vérité, je veux dire. Parce que des fois, ils ont tendance à vouloir arranger leur histoire pour avoir plus de chances d'avoir une carte de séjour. Donc il faut déjà mettre les choses au point, hein, tranquillement et gentiment. Par contre, ce qui est terrible, c'est que, comment dire, dans les 9 dixièmes des cas, on se rend compte que si on fait un dossier avec ces personnes, si on envoie ce dossier à la préfecture, ils ont 99,99 chances d'avoir un refus et voire une obligation de quitter le territoire. Et donc, à un moment, il faut leur dire, on ne peut pas leur cacher non plus ces affaires-là. Mmh. On est obligé de leur dire, voilà, vous êtes là, ils sont dans une détresse abominable, ils ont vécu des choses et des choses et des choses très très dures. Et nous, en face, on est parfois obligé de leur dire, écoutez, il ne faut pas prendre ce risque, ça va être terrible pour vous.
C'est plutôt, du coup, quand vous faites ça, on les signale, quoi, quelque part. Ça sert plus à ça, la sous-préfecture, aujourd'hui.
C'est ça. Bon, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait un dossier et que la préfecture juge qu'ils n'ont aucune raison de rester en France, qu'on leur donne une obligation de quitter le territoire, à ce moment-là, effectivement, la préfecture a les coordonnées de ces personnes-là.
Oui, oui.
Mais alors, quel est le statut des enfants qui sont nés en France, alors ?
Oh ben, rien. Enfin, je veux dire, rien. Non, non. C'est pas du tout rien. Mais, par exemple, les familles d'un enfant né en France, bon, c'est pas... ça ne va pas avantager pour avoir une carte de séjour à ce jour.
Ah hein. Oui, d'accord.
Mais si l'enfant il a 2 ans, il est né en France, il n'y a rien qui va faire...
Oui, ce n'est pas une situation qui leur permet de récupérer des papiers. Quoi, voilà.
Non, sauf que quand l'enfant aura 18 ans, s'il est né en France, hein, à ce moment-là, l'enfant pourra faire toutes les démarches pour être régularisé. Et d'accord. À ce moment-là, c'est que... Peut-être que les parents pourront, grâce à ça, être glacés. Mais on n'en sait pas.
Il faut 18 ans.
Il faut déjà qu'il ait 18 ans, mais en plus, peut-être que les textes auront changé à ce moment-là. Les textes
oui, ça va évoluer encore, oui, bien sûr. Ouais. Bref, c'est très complexe. Ouais. Et moi, lors de cette maraude, parce que ça m'a marqué quand même, il y a des gens qui étaient là depuis 5-6 ans en France, quoi, sans papier. C'est un truc de fou, quoi. 5 à 6 ans. Et c'est pas fini, quoi. Donc, ils sont loin d'être régularisés, oui.
Si vous voulez, on s'appuyait pendant un certain temps sur la circulaire Valls. Et, qui n'a plus, en principe, qui n'a plus... On ne peut plus s'appuyer dessus maintenant. Mais la circulaire Valls disait que pour pouvoir faire un dossier de demande de carte de séjour, il fallait que les familles soient en France depuis plus de 5 ans et que les enfants soient scolarisés depuis plus de 3 ans.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'avant, quand des familles venaient nous voir, et qu'elles étaient en France depuis moins de 5 ans, et que les enfants étaient scolarisés de moins de 3 ans, c'était même pas la peine de faire un dossier. Il fallait qu'elles continuent à vivre comme ça.
Eh ben, oui. Et puis donc, quand on n'a pas de papier et tout ça, c'est quand même compliqué de trouver du travail, hein, de régulariser sa situation, quoi.
Oui, c'est ça. Alors,
oui. On ne peut pas trouver du boulot si on n'a pas de papier. Quoi.
C'est ça. Donc, il y a évidemment, on le sait, du travail au noir qui peut se développer aussi avec certaines possibilités. Enfin, il faut bien gagner sa vie aussi.
Voilà, oui.
Voilà, et arriver à survivre. Ce qui fait que, il y a des familles aussi qui ont en quelque sorte les ponts coupés derrière elles. C'est-à-dire que quand on dit est-ce que ça ne serait pas mieux pour certaines de rentrer dans leur pays, alors peut-être de toute façon, après ça c'est le mystère de chaque vie et on ne peut pas juger les vies des gens, mais certaines ne peuvent pas, non, parce que certaines ont contracté des dettes, parce que certaines ont brisé des liens familiaux pour pouvoir justement partir, parce qu'il y a des histoires de mariage forcé, parce qu'il y a des gens qui sont poursuivis justement, ou des jeunes femmes qui sont poursuivies pour avoir échappé à un mariage forcé, et donc un certain nombre de gens ne peuvent pas de toute façon retourner dans ce qui n'est plus leur pays. Donc il y a effectivement des systèmes de survie. C'est là aussi que la France, c'est à la fois ambivalent. À la fois, on peut dire ils sont dans des galères pas possibles. Et en même temps, il y a donc la scolarisation, par exemple, qui est possible. Il y avait donc ces mises à l'abri un peu pérennes dont on parlait récemment, qui vont malheureusement se tarir dans ces hôtels ou ces chambres d'hôtels qui se sont développées à Creil notamment, où... bon an, mal an, une certaine vie pouvait se développer avec l'aide des Restos du Cœur ou du Secours Populaire ou d'autres moyens. Donc, avec une vie très difficile et une vie, comme disait Hélène, toujours de crainte d'être contrôlée, avec l'impossibilité de, d'aller trop dans les trains parce qu'on peut être contrôlé, enfin toute une vie qui s'organise comme ça, mais qui est en même temps extrêmement courageuse, avec des gens qui arrivent à survivre avec beaucoup de ténacité. Et puis jusqu'à une période récente, on avait donc, comme disait Annie, l'espoir que un jour viendrait la régularisation et que ces gens pourraient mettre tout leur talent et leur courage au service de la société française aussi, en ne demandant que ça. Mais ça devient de plus en plus difficile et c'est ce qui nous inquiète aussi.
Je redonne la parole à Gontran.
Alors, tout à l'heure, on a parlé de comment d'étranger, de monsieur, comment...
Prévert.
Eh bien, j'ai été fouillé un petit peu et j'en ai retrouvé un autre. Donc, j'arrive où je suis étranger de monsieur Louis Aragon. Rien n'est précaire comme vivre. Rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour, tu passes la frontière. D'où viens-tu? Mais où vas-tu donc? Demain, qu'importe et qu'importe hier. Le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt sur ta tempe. Touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basse les lampes. La nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne. Mais l'enfant, qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant pour ne sentir ta dissemblance et sur toi-même d'antan tomber la poussière du temps. C'est long vieillir au bout du compte, le sable enfuit entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît, un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme, une chose, c'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous? Lentement plier nos genoux? Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi c'est si magré? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger.
Bravo.
Merci, oui, pour ces...
Ah bah oui, c'était le moment un peu de les ressortir, hein, tous les vieux briscards, oui. Là, de poètes.
Vieux briscards que nous sommes aussi, d'ailleurs.
Oui.
On ne l'a pas dit, nous, c'est vous qui le dites.
C'est vrai que ce qui est intéressant dans votre parcours, je disais à Fred, là, pendant qu'on écoutait Lily, c'est que vous avez évolué, de, si j'ai bien compris, d'associations comme « Touche pas à mon pote », des choses comme ça, vers des associations aujourd'hui. C'était quoi pour vous l'évolution de tout ça? C'est un peu le même combat toujours ou...
C'était SOS Racisme.
SOS Racisme, oui.
Oui, c'est le même combat, mais c'était aussi le combat pour qu'il y ait moins, si possible, de ces citoyens de seconde zone, en quelque sorte. Mmh. Enfin, c'était, lutter contre le racisme, c'est toujours aussi important, mais qu'il y ait dans notre société ces gens qu'on met dans une fragilité extrême, c'est ça qui nous a semblé, et puis dont le nombre nous a semblé croître, mais peut-être qu'on l'ignorait avant. C'est ça qui nous a semblé plus urgent à un moment donné. Parce que le poème que vous disiez là sur la fragilité de la vie, je me dis c'est vrai pour nous tous, effectivement, mais c'est encore plus vrai quand on ne se sent pas en sécurité dans un pays. Et c'est ça qui me frappe souvent.
Moi, je pense aussi que dans nos l'évolution de nos associations et ce qu'elles sont devenues à ce jour, c'est qu'on avait besoin de concret. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'aller vers ces personnes qui sont en souffrance et de leur proposer quelque chose. Et donc, je pense que c'est important, cette évolution, dans ce sens-là.
Vous êtes plus au contact aujourd'hui?
Ah oui.
Oui, on fait de l'accompagnement concret, mais c'est aussi de la fraternité, au sens large du terme. C'est notre fraternité qu'on développe, et c'est aussi tout notre réseau d'associations. Seul, chaque association, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Hein. On s'entraide beaucoup. C'est ce qui fait qu'on arrive aussi à faire ce qu'on fait, hein, parce qu'on est tous en fin de compte dans toutes les associations. Et c'est aussi une démarche fraternelle. C'est ce qui manque beaucoup dans notre société. Et nous, c'est ce qu'on veut développer. C'est vraiment notre cœur de métier. Je veux dire, là, quand vous disiez, on accueille beaucoup de gens d'Afrique, qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, la question, elle se pose même pas. Nous, on accueille. On est citoyens du monde. Moi, si je vais aller au Sénégal demain, j'y vais sans problème. Pourquoi? Voilà. Oui. Pourquoi moi je peux aller au Sénégal et quelqu'un du Sénégal ne peut pas venir chez nous? Pourquoi? Bon, voilà. Et il y a toujours cette démarche, on nous dit qu'il faut que les personnes elles s'intègrent, etc. Mais si vous allez au Sénégal ou dans d'autres pays, les Français ils créent des quartiers français. Tout reste très français. Donc c'est quoi l'intégration? Pourquoi on exige tant de choses des personnes qui font la migration vers nous que nous, on ne fait pas pour aller ailleurs? Depuis que l'être humain il est sur Terre, on voyage, on voyagera toujours. On est tous des migrants.
Oh oui, puis la Terre est ronde. Mais c'est vrai que c'est presque un argument politique aujourd'hui quand on voit là ce qui se passe et on arrive vers les élections pestilentielles. Ouais. On se dit que c'est devenu vraiment un argument politique très fort, quoi. Il y en a certains qui se promeuvent.
Ah bah c'est leur tête de gondole, on peut dire. Hein, c'est ça, hein, l'immigration.
Oui, et pourtant, je crois que justement, la crise en Ukraine nous rappelle la fragilité de nos statuts et le fait que on peut devenir, nous aussi, des exilés un jour. Peut-être qu'on a aussi dans nos familles, moi j'ai dans ma famille des personnes qui, à une époque, ont fui leur pays, ont fui la guerre, sont venues en France, et c'est comme ça que c'est peut-être ma famille aussi, et puis d'autres. Sauf que certains ont aussi des familles d'origine exilée, mais estiment que après eux, il faut fermer la porte, et qu'il y en a assez comme ça, ce qui est assez sidérant. Mais peut-être encore une fois que cette arrivée de ces personnes déplacées d'Ukraine dans un pays qui pourtant vivait comme nous peut justement nous faire réfléchir à cette fragilité et nous faire comprendre la nécessité de cette fraternité dont parlait Hélène.
Oui, et puis en plus, on peut parler aussi des problèmes d'environnement qui vont arriver dans peu de temps, parce que le réchauffement climatique et tout ça va changer un petit peu la carte de notre belle Terre. Hein.
Tout à fait. C'est même peut-être même la première urgence avec la guerre, le réchauffement climatique. Il y a déjà des famines qui sont installées dans beaucoup de pays.
Hein. Oui. Bon, c'est pas gay ce qu'on raconte, hein. C'est pas top, hein.
Tout d'un coup, on s'en rend compte.
J'ai noté aussi sur votre site qu'il y avait une campagne anti-racisme et solidarité qui a lieu le vendredi 18 mars.
Tout à fait, c'est-à-dire demain.
Voilà. Alors donc, pour les rediffusions, malheureusement, ça sera passé. Mais bon, il faut suivre vos sites. Hein. On va les nommer après à la fin de l'émission. Hein. Donc là, c'est une manifestation départementale, c'est ça. Hein.
Oui, voilà, à Beauvais, à 18h demain, il y a une manifestation, donc sur une campagne antiracisme et solidarité, manifestation départementale qui est toujours sur ce thème de la solidarité avec les migrants. Il y a aussi, puisqu'on est dans les événements à venir, le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, organise le dimanche 27 mai à la...
Ah, non.
Pardon, 27 mars.
C'est un peu plus près, alors, voilà.
À nos gens, un après-midi qui s'appelle un défi pour les migrants, un défi pour la fraternité. On est toujours sur la même thématique. Et puis, solidarité sans papier, avec Sans pour un toit, avec Sans pour un toit famille, avec d'autres associations, organise aussi en projet un pique-nique de la fraternité en juin à Creil qu'on est en train d'organiser. Donc, quelque chose qui se veut sur le versant ensoleillé, ça sera le cas puisqu'on sera en juin, parce qu'il faut aussi que ce soit ce versant-là positif et chaleureux de l'accueil des migrants.
Voilà. Donc, moi, si j'ai bien compris, vous êtes là encore pour plusieurs années, quoi.
Hein? Moi, je voudrais dire une note positive, justement.
Allez-y.
On a dit plein de choses, effectivement, que c'était compliqué. Moi, je voudrais dire qu'on a beaucoup à recevoir des personnes qui viennent de la migration, justement. Ils ne viennent pas juste chercher quelque chose. Ils nous apportent beaucoup de choses, également. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un enrichissement. On a tout à s'enrichir, à aller vers l'autre et à le découvrir. Et c'est souvent ça, là, actuellement, on voit la campagne politique qui est sur les peurs. Hein, c'est le contraire, il ne faut pas avoir peur de l'autre. On ne peut que s'enrichir en allant vers l'autre. Mmh. Et ces personnes-là, elles ne viennent pas nous prendre des choses, elles viennent nous en donner. Mmh. Voilà. Et ça, il faut l'avoir en mémoire. Voilà, c'est un échange.
Oui.
On a tout à gagner à vivre ensemble.
Donc vous avez des belles histoires à raconter, j'en suis sûr. Quoi. Il y a des belles rencontres humaines.
Oui. Mais on fait des rencontres merveilleuses, même dans des moments dramatiques, même à la maraude, on fait des rencontres merveilleuses. Moi, les jeunes qui arrivent à la maison, ils vont arriver des fois, souvent, ils sont, je vais dire une expression, ils sont en vrac, hein, vraiment, ils sont en larmes, ils sont très mal, etc. Mais on vit des moments merveilleux ensemble. Voilà. On ne peut pas réduire une personne à ses papiers, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ces personnes, c'est des êtres humains comme vous et moi. Hein. Donc, on a tous une histoire, on est tous riches de quelque chose et on a tout à gagner à partager nos richesses.
Oui. Florence, Annie, Hélène, l'émission va se terminer. Oui. Comment vous soutenir, comment vous aider dans vos besoins? Quels sont vos besoins? Voilà.
Alors, pour Solidarité sans papier, les besoins, ce sont plutôt des besoins humains, c'est-à-dire des gens. Des gens qui nous reçoivent, qui nous rejoignent, qui sont prêts à donner un peu de leur temps pour des choses très diverses, qui peuvent être soit les permanences, comme disait Annie, soit des accompagnements, soit des aides de toute nature, surtout de la présence humaine, de la solidarité, des rencontres, comme disait Hélène. Donc voilà, des gens, des forces humaines. C'est de ça que nous avons besoin.
Voilà, sur le bassin Crayois, on précise
sur
bien.
Sur le bassin Crayois, voilà. Hélène ?
Alors à 100 pour un toit oise, on va bientôt avoir, là actuellement on loue un logement à la ville de Creil, on va avoir un logement qu'on va louer à la ville de Clermont pour accueillir des jeunes filles. Donc tout ce qu'on recherche en premier lieu, c'est grâce à ça que 100 pour un toit existe, c'est des adhérents.
Oui.
Qui nous permettront de régler ce niveau de loyer. Et alors des adhérents, nous il y a plusieurs niveaux, effectivement on peut être adhérent et verser 5 euros, et voilà, c'est déjà une très belle démarche. On peut aussi s'investir auprès de l'accompagnement des jeunes. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des adhérents. On est 170 actuellement, on se met le défi d'être 200 après l'émission.
Eh bien, on le souhaite en tout cas. Hein, voilà, oui. Donc on rappelle, hein, 100 pour un toit, 100 fois que les gens qui donnent quelque chose, ça permet de payer le loyer, ça permet de pouvoir recueillir ces jeunes qui sont dehors. Voilà. Y a un lien pour vous, les associations, comment on fait pour vous joindre?
Alors, il y a l'adresse du blog que vous aviez, je crois, solidaritésanspapiers.blogspot.com. Et là, il y a les liens pour nous joindre.
D'accord.
Et nous, on a un site Facebook.
Oui.
Où il y a toutes les coordonnées de 100 pour un toit oise.
Très bien. Donc, il n'y a plus qu'à être curieux et puis de s'investir.
Voilà.
En tout cas, on a bien compris.
On accueille tout le monde.
Oui, on a bien compris, oui. En tout cas, merci mesdames. J'espère que pour l'auditeur, que l'écoute était quand même assez agréable, hein, avec cet insert téléphonique. Merci Gontran.
Eh ben, il n'y a pas de quoi. Merci mesdames. Merci tout le monde.
À bientôt Gontran.
Alors. Eh ben, à bientôt.
Ouais.
À bientôt.
Je remercie Luc à la technique. Voilà.
Merci pour les découvertes poétiques.
Écoutez, voilà. Alors une petite dernière comme ça pour finir, parce que c'est un truc que j'aime bien répéter. C'est très court. C'est une phrase qui m'a toujours animé, qui m'a toujours plu. C'est une phrase du poète paysan Gaston Couté qui disait
«
Il y a toujours un peu de fumier dans le destin d'une fleur ». Et ça, c'est magnifique.
Magnifique. Voilà, c'était Frédéric qui était en compagnie donc de Hélène et de Annie et de, que je ne me trompe pas, Florence. Voilà, donc Florence et Hélène, non, Florence et Annie de Solidarité sans papier de Creil et Hélène qui fait partie de 100 pour un toit oise. Merci mesdames, à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Bye bye.
C'était une émission de la rédaction de RVM.